Philippe Vandel est de retour avec sa série des Pourquoi pour répondre à toutes vos questions sur les Jeux Olympiques.
Il y en a tellement. Pourquoi un joueur de foot ne peut pas retirer son maillot pour célébrer un but? Pourquoi l'équitation est-elle la seule épreuve mixte des Jeux Olympiques? Et d'ailleurs, pourquoi certains sports sont-ils olympiques et pas d'autres? Des questions évidentes, mais des réponses étonnantes. Plongez avec moi dans l'univers fascinant des Jeux Olympiques et du sport.
Les Pourquoi des Jeux Olympiques, un livre surprenant de Philippe Vandel, aux éditions Kero.
RMC.
À thème, il a mon portable, qu'il m'appelle.
Faut arrêter de se prendre pour Calimero, ça suffit, ok? Allez, ciao, bonne soirée.
Ici c'est Mars, surface rouge, atmosphère tendue volcanique, de la zig automatique de Mac.
After Marseille.
Nicolas Villas.
Ah, je le kiffe toujours autant, générique. Votre podcast After Marseille est là, comme chaque semaine. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli pour ne pas manquer les prochains épisodes, pour écouter ou réécouter les épisodes précédents. Et aujourd'hui, on va ouvrir le dossier Balerdi. En voilà un joueur, un cas qui divise, avec l'indivisible Roland Courbis. Salut Roland.
Salut les amis et salut à tous.
Je le sens bouillant sur le thème, Roland. Avec Flo Germain, alors qui a réalisé d'ailleurs l'interview avec Léo Balerdi pour Rotten sans flamme il y a quelques jours. Salut Flo.
Ouais, il y a une petite semaine. Salut les amis, salut coach, salut Nico. Flo.
Alors Balerdi, souvent critiqué, mais il est aussi souvent utilisé. Tiens, petit fact-checking pour commencer. C'est le deuxième joueur de l'OM cette saison en termes de minutes toutes compètes confondues après Chancel Bemba, qui a été le plus utilisé par Tudor. Flo, est-ce qu'on peut dire que c'est un taulier de l'OM, Balerdi?
Un taulier, le mot est peut-être un peu exagéré, mais c'est un titulaire. Et déjà, qui l'eût cru? Et voilà, force à lui d'être devenu un titulaire. Taulier, ce serait un peu trop fort parce que je pense qu'il est bien entouré. On en reparlera, mais c'est ce qui aussi fait sa réussite, je trouve, hein, ces dernières semaines, ces derniers mois. C'est que, voilà, t'as cité Mbemba, par exemple. Bah, quand tu joues à côté d'un joueur qui dégage une certaine assurance, bah, peut-être que tu progresses. Mais voilà, régularité, polyvalence dans ces trois postes-là, dans l'axe, dans le système de Tudor. Lui, son poste, à la base, c'est vraiment au milieu, un peu pas libéro à l'ancienne, mais vraiment dans l'axe, mais il est capable de jouer un peu à gauche, un peu à droite, on l'a vu ces derniers matchs aussi. Je crois que de cette polyvalence, Igor Tudor en a tiré un homme en quel il a une totale confiance. Donc avoir gagné la confiance de Tudor, c'était pas évident et c'est un pari qu'il a gagné.
Roland, si Tudor, dont les résultats sont là pour l'instant, l'utilise autant Balerdi, c'est quoi? C'est qu'il le considère comme un taulier ou le mot est trop fort, comme dit Flo?
Mais je suis pas du tout d'accord avec vous, comme souvent.
Donc je pose des questions, moi.
Non, mais dans le sens...
Normalement, tu dis comme rarement.
C'est vrai.
Non, tu dis, on est souvent non, d'accord, mais là, truc, je ne suis pas d'accord.
J'aurais pu dire, comme rarement, souvent. Mais en ce qui concerne Balerdi, dans les intérêts mis à part, qu'il soit avec une traditionnelle marge de progression et qu'il soit, disons, en progrès, je suis le premier à le constater, mais en ce qui concerne le fait qu'il s'est imposé... Mais, ou alors j'ai mal vu, je ne me rappelle pas, c'est qu'il y a cinq joueurs pour cinq arrières centraux pour trois postes. Il y en a un que toujours je taquine, les joueurs qui sont fragiles, soit je les appelle Tarzan, soit j'explique que leur coach c'est le kiné. Donc celui-là, ben, comme il s'appelle,
Bailly.
Parce que c'est Bailly. Et après, ça voudrait dire que Balerdi soit en balance avec Kolasinac. Pour justement être titulaire à l'Olympique de Marseille. Mais j'espère pour lui qu'il est quand même très souvent titulaire, les amis.
Vous voudriez non, mais là je ne suis pas d'accord avec toi.
Eh ben,
comme rarement, puisque en fait, Kolasinac, il réalise un très très bon début de saison. Et pour le coup, ça devient vraiment un joueur de confiance aussi pour Tudor. Et Kolasinac, il a même prouvé... Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus, qu'il est peut-être mieux à cette place d'axial gauche que piston, même s'il a prouvé quand même qu'il peut dépanner à la place de Nuno Tavares. Donc pour moi, mettre Kolasinac axial gauche, c'est pas du dépannage, c'est presque devenu son poste dans le système Tudor. Donc que Balerdi lui passe devant, moi je trouve que c'est une perf, parce que Kolasinac est très très bon en ce moment.
Mais pour moi, c'est une surprise, Kolasinac. Je le trouvais très moyen, tu sais, traduire quand je dis moyen.
Je pense qu'on en fera un sujet de podcast bientôt.
Et quand je dis très très moyen. Et donc, Balerdi, je ne fais pas les comparaisons avec les arrières centraux de la saison dernière, que je trouve supérieurs, avec en plus Camara qui peut jouer en 6, que celui de cette année. Donc, Gigot, qui est pour moi un bon joueur moyen, Donc, se joue le poste de titulaire avec Balerdi.
Tout le monde est moyen avec toi, l'OM.
Mais excuse-moi.
Chico, Balerdi, Kolasinac.
Mais c'est-à-dire que je les trouve très bons dans le contexte actuel. Donc, j'insisterai toujours, sans être vraiment sévère, mais on en parlera après du calendrier à venir, et notamment du calendrier de Paris Saint-Germain, du calendrier de l'OM, du calendrier de Lens. Donc, aujourd'hui, Balerdi, je regarde des progrès, j'en suis très heureux pour lui, mais, je dis bien mais, nous avons un système depuis 2 ans qui est un système avec 3 arrières centraux. C'est un système à la mode. Mais pour justement être bon dans ce système, il faut être très bon dans les 1 contre 1 et il faut être très rapide. Et bien pour le moment, pour moi, Balerdi, qui est en progrès, ben, doit encore faire des progrès pour être au niveau, par exemple, d'un Saliba ou d'un Pérez de la saison dernière.
Juste les gars, on va avancer. Hein. L'histoire entre Balerdi et le public marseillais, alors elle n'a pas toujours été facile. Hein. Le début de saison de l'OM avait été tendu avec une partie du Vélodrome qui sifflait son équipe. Balerdi s'est exprimé là-dessus hein, dans Rotten sans flamme il y a quelques jours à ton micro, au Flo. L'Argentin comprend-il ses sifflets? Lui qui en a été la cible en ressortit le plus fort.
On connaît l'exigence qu'ont les grands clubs. Et on est dans un grand club. Donc il y a des points positifs et des points négatifs de la part des supporters, mais il faut être prêt pour ça. Moi je suis prêt à affronter les critiques. Si je traverse un mauvais moment, il y aura des critiques, c'est le foot, c'est comme ça. Alors parfois on se dit que c'est pas juste, mais c'est comme ça, il faut être prêt à ça, à affronter ça. Oui, c'est vrai qu'après, je me suis senti plus fort. Ça a été un travail sur moi-même, hein, d'accepter ce qui se passe. Mais après, une fois qu'on a surmonté ça, bah, je me suis senti très bien.
Alors, les supporters,
moi, tu vois, cette interview, bah, je le trouve super. C'est un garçon qui me donne l'impression déjà, pas même l'impression, la certitude d'être très sympa, qui a envie de réussir.
Et qui a du mental aussi, non?
Voilà, réussir à l'OM, c'est pas simple du tout. Et petit à petit, il est en train. Je continue à constater, et on le signalera régulièrement, ses progrès. Mais pour le moment, dans les 1 contre 1, dans ce duel, dans cette distance de marquage qui est pour moi indispensable, il est en progrès, mais je ne vais pas être sévère. Il ne pouvait être qu'en progrès.
Flo, c'est vrai, on sait, les supporters sont parfois versatiles. Hein. Le public du Vélodrome avait pris Balerdi en grippe. Pourquoi lui d'ailleurs, Flo?
Écoute, pourquoi lui? C'est une bonne question. Parce que déjà, c'est vrai que tout n'a pas été rose pour lui. Il y a eu des matchs compliqués en Ligue des Champions. Donc après, tu colles un peu une étiquette sur un joueur. Et c'est un joueur qui, de toute façon, est clivant. Je le vois aussi même, pour tout raconter, il y a un petit jeu entre journalistes. On sait qu'il y en a qui aiment beaucoup Balerdi, d'autres le critiquent depuis quelques temps. Donc c'est marrant. T'as des joueurs comme ça où t'as pas d'eau tiède. C'est où tu vois en lui un grand potentiel. C'est blanc ou noir. Où tu vois en lui un grand potentiel, où tu t'estimes qu'il n'est pas au niveau. Après, je sais pas, peut-être que je trouve parfois un délit de sale gueule pour lui, tu vois, élégant, un peu beau gosse. J'ai eu le sentiment, non, mais que trop facilement on le critiquait en disant, oh là là, si lui il s'appelait autrement que Balerdi, il serait jamais titulaire. Il a été souvent comparé à Lucas Perrin, c'est pas. Pourtant, c'est le même poste, mais c'est pas le même profil quand même, où on disait à Marseille, on sait pas mettre en valeur les jeunes. Donc en fait, et puis le prix aussi. C'est vrai que l'option d'achat au départ, tu te dis bon, 11 millions d'euros, c'est pas rien. Donc tout ça, je pense que tout cet ensemble a fait que le public avait un œil un peu plus sur lui et donc l'a un peu pris en grippe. Voilà, il a pourtant, je trouve, étape par étape avec Villas-Boas, avec Sampaoli, su progresser. L'année passée, il a eu assez peu de temps de jeu avec l'Argentin parce que il avait fait d'autres choix. Puis comme le rappelait coach, il y avait quand même de la concurrence aux concurrences derrière. Mais si tu regardes bien, lui il est resté dans l'état d'esprit toujours et maintenant il a su convaincre tout d'or.
Roland, je te repose la question différemment, mais de là à ce qu'il soit sifflé, est-ce qu'on n'a pas été trop dur avec Balerdi?
Ah ben oui, mais bon, il a malheureusement eu donc une série de quelques erreurs. Quand il y a eu des buts qui auraient pu être évitables, je me rappelle de cette saison. Je me rappelle des bons matchs qu'il a fait, notamment dernièrement, je le trouve en progrès. Je me rappelle d'un coup malheureux contre Lens, où ce match et cette défaite, elle n'est pas méritée du tout. Et malheureusement, elle n'a pas de chance. S'il y en a un qui fait une connerie.
Des fois, tu as le côté poisse aussi qui joue.
C'est encore lui. Moi, là, ce que j'essaye de surveiller, c'est la distance de marquage, où là, je trouve qu'il faut qu'il soit encore en progrès. Et dans les duels, un contre un, où avec cette organisation à trois arrières centraux, il faut être très très bon pour être dans ces duels, pour être justement un arrière central de ce système-là. Et là, je pense qu'il est en progrès et qu'il y a encore des progrès à faire.
Alors Samuel Gigot était en conf de presse ce jeudi avant le match face à Monaco. Il s'exprimait sur son coéquipier Balerdi. Il se dit très heureux de le voir redresser la barre.
Ouais, moi je suis très content pour lui parce que je pense que c'est vraiment pas facile de se faire siffler par son propre public à domicile, et il a été très fort mentalement. Il mérite tout ce qui lui arrive et j'espère qu'il va continuer comme ça jusqu'à la fin de saison. C'est un super garçon, donc c'est sûr qu'il y a toujours des moments compliqués dans une carrière et je pense que c'est important d'être là dans ces moments-là. Quand ça va bien, je pense qu'il n'y a pas besoin, donc tant mieux qu'il profite à fond. Mais quand ça va moins bien, je pense que c'est aussi notre rôle à tous, les joueurs, d'être là pour son coéquipier. Parce que ça n'a pas été facile et on sait tous la pression qu'il y a à l'OM. Mais ce n'était pas évident, donc je suis vraiment content pour lui, vraiment.
Ben, si tu veux, Gigot qui parle, Gigot, ce n'est pas facile pour lui non plus. Il est du coin, il a joué à Arles-Avignon. Et là, aujourd'hui, je vous pose une question, moi je n'ai pas la réponse. Qui est meilleur, Gigot ou Balerdi?
Bah là, à l'instant T, je te dirais Balerdi, moi, mais...
Ah bon ?
Flo, tu dis quoi, toi ?
Ouais, je sais pas. Pour moi, c'est pas exactement le même style de joueur, mais...
Non, mais il y a de bonnes vibes en ce moment pour Balerdi.
J'ai l'impression que Balerdi est un peu meilleur en ce moment que Gigot, au final, hein, qu'il est plus régulier, tu vois.
Ouais, mais Gigot parle de Balerdi comme quelqu'un qui, lui, a la tranquillité avec... Il s'est déjà adapté, il a déjà été adopté, et donc il s'occupe des petits problèmes de son coéquipier Balerdi. Alors que moi, tu me dis,
non, c'est pas ça,
qui
c'est
pas
est ça,
meilleur
coach.
Entre Gigot et Balerdi, oui. Ben, je te dis 50-50.
C'est pas ça. Pour aller un petit peu dans les coulisses de cette question, c'est qu'en fait, Léo Balerdi, il a expliqué qu'il a vécu des moments parfois durs à l'OM.
Il l'a dit dans Rotel sans flamme, d'ailleurs.
Non, mais évidemment, c'est ce qu'on a entendu tout à l'heure. Et ce qu'il n'a pas dit et qu'on peut expliquer, c'est qu'il y a un joueur qui était important pour lui, c'est Samuel Gigot. Et parfois, tu t'accroches aussi à des coéquipiers, à un discours. Voilà, ça colle bien avec certains, et c'était le cas de Samuel Gigot. On ne l'a pas pris au hasard comme ça, et c'est pas Gigot qui a décidé qu'il allait parler de Balerdi en disant c'est mon poulain. Non, c'est juste qu'il y a une petite histoire entre les deux, où c'est vrai que Balerdi, qui a aussi une qualité, c'est qu'il lui s'entend avec tout le monde. Tu peux aussi bien le voir déconner avec un taulier du vestiaire, un Rongier, un Payet, ou il fait un peu la liaison avec ceux qui parlent espagnol. Il peut aller voir Alexis Sanchez. Il a ce côté un petit peu caméléon où il s'entend avec tout le monde. Je pense que faut pas oublier que ça, c'est très important dans un vestiaire. Et donc Gigot, il a compté pour Balerdi et il lui a rendu l'appareil avec cette petite décla. Il n'y avait rien de bien méchant.
Question qui n'est pas une question piège, et je te donne ma parole, je n'ai pas moi la réponse. Bamba. Bailly.
Mbemba, tu veux dire.
Mbemba. Bailly. Gigot. Balerdi. Kolasinac. Ils sont tous les trois en forme. Même Bailly, il n'est plus du tout avec le kiné. Donc, on met lesquels, les trois titulaires?
Si tu parles en termes de qualité pure, je ne sais pas ce que tu en penses. Moi, Bailly, j'adore, mais il est tout le temps blessé.
Oui, non, mais là, il dit non, à 100%.
Problème, c'est que c'est le problème de Bailly. Il sera peut-être à 100%, il ne serait pas à l'OM. Tu vois, ça, le truc. Bon,
allez, à partir de maintenant, okay. Il a fini sa période noire. Tac, il est devenu...
Bah, Flo, tu m'équites, toi. Voilà.
À 100% et pas suspendu, parce qu'on rappelle qu'il est suspendu. très honnêtement, je trouve Bailly très fort, ouais, quand il est à 100%.
Aussi.
Donc Bailly, Mbemba, et pour moi, match entre pour la troisième place, entre les trois. Je vais pas forcément faire une hiérarchie. Kolasinac, pour moi, est très très bon en ce moment. Donc axial gauche, je peux le mettre.
Toi, Roland, toi.
Comme je peux mettre Balerdi, tu vois. Enfin,
je mets pas Balerdi. Okay. Je mets Gigot ou Kolasinac.
D'accord. Ok. Alors en tout cas, hein, avec 27 apparitions à mi-saison, Balerdi a déjà dépassé son record de match sur une saison à l'OM, hein, ça aussi ça en dit long. On le disait, c'est le deuxième nom le plus coché par Tudor. Dans Rotten sans flamme, il lui a été demandé ce qui avait changé depuis le départ de Sampaoli et l'arrivée de l'entraîneur croate.
C'est
vrai qu'au début, quand il m'a demandé de m'incorporer en attaque, c'était un peu compliqué, hein, parce que je suis défenseur. J'ai pas eu cette habitude de faire la passe et de franchir des lignes. Mais voilà, match après match, je me suis rendu compte que mes partenaires défenseurs faisait ça, marquer des buts, bouger, attaquer. Donc ça m'a fait dire que je pouvais le faire aussi, que je pouvais progresser dans cet aspect et m'incorporer en attaque, oui.
Alors là, il parle de l'évolution offensive. Voilà.
Donc, si tu veux, c'est une précision que je vais vous donner, ça serait trop prétentieux de dire que c'est une leçon. Dans le sens que ce qu'il dit, c'est très intéressant, mais si par exemple, on te demande... Après avoir donné un ballon, de t'incorporer, ben je trouve que c'est une très bonne idée. Je dirais pourquoi pas, condition après qu'il y ait un des deux six, ou pourquoi pas les deux qui restent, pour ne pas se faire piquer en contre. Mais ce qui m'intéresse, moi, dans les progrès, c'est la distance de marquage. Je précise ce que c'est pour ceux qui nous écoutent. Vous, je suis sûr que vous êtes au courant. Pas trop près d'un adversaire, pas trop loin non plus. Pas de fautes inutiles qui peuvent te donner un carton jaune ou un coup franc dangereux. Eh bien, là, je pense qu'il est en progrès, mais il faut qu'il continue ses progrès. Et là, à ce moment-là, ça peut devenir un joueur très, très intéressant. La rapidité, je pense que c'est un folan. Il va quand même assez vite dans l'ensemble. Mais dans les 1 contre 1, avec cette distance de marquage, là, il y a encore des progrès à faire.
Coach, il insiste sur ses faiblesses. Moi, je vais insister un peu sur ses points forts. En tout cas, aux yeux du coach et du staff. Déjà, on trouve au sein de l'OM qu'il est plus mature, donc c'est assez logique, hein. Il commence un petit peu à enchaîner les saisons.
On sait
qu'il a des matchs. Voilà, jeu de tête. Quelque chose dont on se rend peut-être pas trop compte quand on regarde le match devant la télé, et honnêtement, c'est assez frappant au stade. Il est très fort dans l'anticipation, et c'est ce que demande beaucoup Igor Tudor. Il insiste beaucoup auprès de ses défenseurs. J'allais dire, il leur rentre dans le cerveau avec ça, parce qu'il le répète quasiment à chaque séance, comme quoi il faut savoir lire le jeu pour anticiper et jaillir, pour devancer du coup l'adversaire et l'attaquant.
Surtout donc, avec cette organisation.
Exactement. Donc là-dessus, Balerdi, je le trouve plutôt bon. Et puis, c'est aussi un caractère. Sans dépasser les limites, mais il a quand même cette grinta, ce côté lâche rien, ce côté mental. Il a su surmonter les quelques critiques, quelques sifflets. Là. Et pour Tudor, ça compte beaucoup, savoir s'imposer comme ça avec une certaine grinta. Donc c'est quand même des qualités qui sont importantes.
C'est top les précisions que tu nous donnes. Moi, je te rajoute donc un défaut. Donc la distance de marquage, on en a parlé. Je trouve qu'il y a une certaine impatience pour avoir les ballons dans des endroits, notamment à l'intérieur des 16 mètres, où il y a un règlement qui te donne facilement un penalty. Des tirages de maillots stupides, des fautes.
Il le reconnaît, des petites sautes de concentration.
Voilà, même s'il si le reconnaît, il le reconnaît. Qui s'est amélioré là-dessus.
Exactement, mais c'est vrai, lui-même le dit, j'ai travaillé là-dessus, je me sens mieux, mais j'ai eu parfois des petits bugs de concentration.
Après, il a 23 ans, il est perfectible.
Mais voilà, mais ça part d'un bon sentiment, parce que tu as tellement envie de l'avoir, ce ballon, que souvent tu es impatient. Et là, ce sont effectivement des progrès à faire entre un jeune qui a envie de s'imposer, et après, petit à petit, il y a cette expérience qui arrive et qui est peut-être ce qui va se passer dans les mois à venir.
Une question, coach, pour toi. Toi, tu le trouves plus à l'aise dans une défense à 3 ou à 4, parce qu'il a vécu les deux à l'OM, finalement.
À 4.
À 4, toi, tu préfères ?
Ouais.
Okay. Toi, Flo, tu dirais quoi ?
Non, moi, je dirais à 3. Enfin, après, je suis très pragmatique. Hein. Je vois la saison du moment. Non, mais écoute, je pense qu'il a plus le profil en plus. Mais bon, après, là-dessus, normalement, j'ai pas à débattre de ça avec coach. Et moi, je suis juste observateur ou journaliste. Et c'est lui qui doit sentir ça. Ce que je remarque simplement, c'est qu'il s'épanouit dans une défense à 3. Après, Roland, tu as sûrement d'autres arguments.
Mais dans une défense à 4, tu vois, je vais peut-être te surprendre avec les 5 arrières centraux. Je ne le mets pas en 5e position. Je mets Kolasinac côté gauche. Lui, comme un droitier, il fait partie pour moi des droitiers qui sont meilleurs à gauche dans ses gestes et dans les angles et dans les fermetures qu'à droite. Donc je vois lui et soit Gigot ou Bailly sur le côté droit. et Bamba dans un rôle d'arrière, allez, un peu comme Kolasinac, un arrière central côté droit, moitié arrière droit.
C'est Bemba.
Donc, Mbemba. Et donc, Balerdi sur la défense à 4, je le vois arrière central côté gauche, d'une défense à 4. Mais alors, bon, après, je peux évidemment me tromper.
Mais non, non. Alors, Balerdi qui a été annoncé partant ces dernières semaines. L'été dernier, Bologne s'était renseigné. Cet hiver, c'est l'Ajax qui est venu aux news. Tu lui as demandé, Flo, toujours dans Rotten sans flamme, s'il allait rester à l'OM.
Se queda Leo, se queda Leo.
Oui, je reste, je reste.
Como dije, estoy contento acá.
Je suis content ici, comme je vous ai dit. Hein.
Estoy agradecido de esos clubes que vinieron a preguntar por mí, pero
je remercie d'ailleurs les clubs qui sont venus poser des questions sur moi, mais je suis très bien là où je suis.
Por respeto, como ya lo dije,
et par respect pour le club, pour l'institution, mes partenaires, le staff technique qui me donne confiance, je leur dis que je suis Marseille, 100%.
Je le trouve très sympa. Et très malin vis-à-vis du public.
Alors, il fait un podcast pour renverser coach. Tu vois, Nico, on en a parlé. Il commence le podcast, il l'aime pas, il finit.
Mais non, mais il va finir par le kiffer, il va avoir un maillot et tout, t'inquiète. Je vous pose la question différemment.
Je peux t'avoir un maillot dédicacé si tu veux.
Oui, mais je vous ai promis que je signalerai je vois des progrès.
C'est bon,
il y en a là quand même.
J'adore quand ta réflexion évolue.
Non, juste, je te pose la question par rapport à ce qu'il dit là. C'est, parce que tu le disais, Flo, t'as raison.
Depuis le début de la saison, tu veux que je saute au plafond pour aller renouer de valeur.
Non, juste une question par rapport à ce qu'il vient de dire là sur son avenir. Tu disais, Flo, c'est un sujet qui divise Balerdi. Moi, je sais qu'on a fait un petit sondage dans la rédac d'RMC Sport. Est-ce que c'est une bonne nouvelle qu'il reste à l'OM ou pas?
Bah écoute, pour cette saison, oui, parce qu'il s'est installé, c'est le deuxième, ou alors vous prenez Igor Tudor pour un fou, c'est le deuxième joueur le plus utilisé, donc c'est quelque part ça se passe bien, et qu'il a au moins sa part de responsabilité dans les bons résultats de l'OM, on peut pas lui enlever ça. Donc pour moi c'est une bonne nouvelle, tout ce qui est stabilité, notamment au mercato d'hiver, je pense c'est le bienvenu, parce que faut pas qu'il y ait trop de changements, quelques ajustements, mais pour moi c'est une bonne nouvelle, d'autant qu'il faut rappeler qu'il est sous contrat jusqu'en juin 2026. Il lui restera 3 ans de contrat, donc il n'y a pas du tout urgence à s'en séparer, à le vendre. Avec les approches ou les renseignements pris par Bologne, par l'Ajax, je pense que ça prouve que c'est un joueur qui en plus a une certaine cote en Europe, donc je pense que l'OM va s'y retrouver. On rappelle, 11 millions d'euros, ils vont peut-être pouvoir le vendre 15-20 dans les mois qui viennent. Moi, mon sentiment, c'est que il pourrait partir cet été parce que justement il restera 3 ans de contrat, bel culbute, une plus-value. Donc voilà, lui non, sera mais... peut-être un petit peu plus prêt à partir. C'est une sensation de geste, c'est pas une info, voilà, je serais pas étonné que cet été il quitte Marseille.
Tu es d'accord avec Flo ou pas? Bonne nouvelle qui reste.
Oui, mais ça m'arrive quand même d'être d'accord avec Flo.
Donc, souvent, on va attendre la dernière question du podcast.
Je plaisante. Ouais. Donc non, ce qui évidemment doit faire partie de son objectif. Mais il a la modestie de ne pas en parler, parce qu'il a dû quand même observer un petit peu ce qui se passait dans l'équipe nationale argentine. Il n'y a pas 50 arrière-centraux meilleurs que lui. Donc,
oui, justement, donc, c'est un objectif pour lui.
Et ça, il doit se dire, je continue à progresser. L'Olympique de Marseille, c'est un club médiatique, médiatisé. Je vais augmenter mes chances d'être international. Je pars de l'Olympique de Marseille à Ajax. Je n'ai pas l'impression de progresser. Donc, je préfère rester à l'OM, au moins jusqu'à la fin de la saison, comme il vient de le dire, Flo.
Et il a tout l'avenir devant lui, parce que effectivement, faut juste rappeler un truc et ça va nous permettre de peut-être conclure en beauté ce podcast, Nico, c'est que il a 24 ans aujourd'hui, au moment où on enregistre. Il est né le 26 janvier. Donc normalement c'était prévu que Roland chante cumpleaños feliz à Léo en fin de podcast. Est-ce que t'es prêt, coach, on y va? Cumpleaños feliz, Léo. Cumpleaños feliz, Léo. Oh là là, on est arrivé. Allez.
Ah ouais.
On y est arrivé. T'imagines quand même à faire chanter Roland.
Mais Flo, je te promets
Balerdi.
Objectif, mais vraiment.
Si jamais le prochain match est marqué un but contre son camp, je vous étrangle.
Prochain objectif, et on le relaiera sur les réseaux sociaux. On veut le maillot de Balerdi dédicacé pour Roland, et on fera la photo après. Allez, avec Roland et tout le truc.
Ça va, on fait ça.
Avec plaisir.
C'est le défi de la saison.
On pouvait pas finir mieux que ça, t'as raison, Flo. Merci Flo Germain.
Allez, la bise.
Merci beaucoup Roland.
Salut mon Flo.
Merci Jérôme Thomas à la production. Merci Daniel Torres à la réalisation. Merci, bisous, et prenez soin de vous.
RMC After Marseille.